chers auditeurs. Et maintenant, après toute cette météo passionnante, nous retrouvons la séquence spéciale de Radio Grouga.
Radio Grouga, la radio qu'elle est chouette à écouter.
And now it's time for Grouga Radio.
Maintenant, Radio Grouga.
Radio Grouga.
And now Grouga.
Tu écoutes Radio Grouga.
Grouga
Radio.
In
direct live, you're listening to Grouga Radio.
Et maintenant, Radio Grouga.
Bien, et bien bonjour à toutes et tous. Je suis au salon de Essen et on attaque avec Pascal Raymond. Que bah, vous allez vous dire qui c'est Pascal Raymond, mais on a beaucoup vu son jeu, mais on n'a pas vu beaucoup son visage. Donc maintenant, on va entendre sa voix, puis je ferai une photo, puis ça donnera un peu le full package. Donc Pascal Raymond est ici pour présenter Paléo. Bonjour Pascal, mais qu'est-ce que c'est Paléo ?
Alors bonjour, mais Paléo, c'est un jeu de pichenette et d'aventure. Donc il se présente sous la forme d'un grand plateau en bois qu'on peut refermer en coffret. Pour pouvoir l'amener un peu partout. Donc le but du jeu, c'est d'ouvrir la porte de la cité disparue Paléo. Donc pour faire ça, vous avez deux sortes de pions, des pions explorateurs et des pions mercenaires. Donc grâce aux pions explorateurs, vous allez pouvoir aller dans les sanctuaires adverses, et il y en a deux, récupérer les deux clés qui vous permettront après d'aller ouvrir la porte de Paléo.
Bien, donc c'est un jeu de pichenette, c'est-à-dire qu'on va devoir lancer des pions sur le plateau et il y a plein d'obstacles. Alors si on peut détailler le plateau, on a vu quelques photos, mais on peut peut-être détailler les différentes zones et à quoi elles servent.
Donc le plateau représente l'archipel de Paléo, donc il est constitué essentiellement de mer et de quelques îles. Donc vous avez deux îles qui représentent les camps de base des joueurs. Deux autres îles qui sont les camps avancés. Et dans les quatre coins, vous avez quatre sanctuaires qui renferment les clés de la porte. La porte de la cité étant au centre.
Et donc, on a aussi des obstacles.
Et on a des obstacles. En début de partie, chaque joueur a cinq récifs. Bon, c'est des genres de barrières qui viennent positionner où il le souhaite sur le plateau. Bon, il y a des zones un peu interdites. Et en fait, ces récifs vont l'aider à protéger ses sanctuaires, à pouvoir se cacher des mercenaires adverses et à pouvoir se créer des rebonds un peu particuliers, des choses comme ça.
Voilà, et donc c'est un jeu qui se joue à combien de joueurs ?
Donc ça se joue à 2 joueurs, à 3 joueurs et à 4 joueurs en équipe, 2 contre 2.
D'accord, et donc quand on joue à 4, c'est 2 contre 2, ça veut dire qu'il y a... on va retrouver combien de pions sur la table ?
Donc il y a 8 pions. Quand on joue à 2, chaque joueur a 8 pions. Et quand on joue à 4, on partage une équipe en 2. Donc c'est-à-dire que chaque joueur a 4 pions.
Qui sont répartis sur les 4 côtés du plateau.
Il y a 2 joueurs qui jouent sur les camps de base et 2 joueurs qui jouent sur les camps avancés. Donc il y en a un qui a plus un rôle d'attaquant pour aller chercher les clés et l'autre qui a plus un rôle de défenseur pour défendre un peu ses sanctuaires.
Le jeu est étonnant au niveau matériel, hein. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de matériel-là et de mise en place. On se retrouve avec une valisette en bois comme on pouvait en revoir il y a un certain temps avec les boîtes multijeux. Donc, qu'est-ce qui a dicté cette volonté d'aller dans du matériel de ce type ?
Moi, je suis le créateur du jeu Dart Wars. Donc moi je suis assez attiré par les matériels un peu originaux. Donc je fais pas de jeu traditionnel avec des cartes, un plateau. Donc je suis plus... moi ce que j'aime c'est l'originalité dans la création. Donc j'essaie de faire des trucs différents.
Effectivement, Dart Wars était et l'est toujours original. On peut résumer en 10 secondes ce que c'était pour se remémorer un peu l'affaire.
Alors Dart Wars c'est un jeu de conquête du monde qui se joue avec des fléchettes magnétiques. Donc vous avez un plateau vertical qui représente un planisphère et les joueurs sont à la tête d'une armée et ils vont déplacer leurs troupes de pays en pays grâce à des fléchettes et il y a une petite cible aussi dans un coin du plateau qui va leur servir à se battre contre leurs ennemis. Donc le but du jeu là c'est de conquérir les territoires adverses.
Donc c'est un jeu qui se joue debout, on lance des fléchettes contre un plateau, c'est effectivement assez spécial.
Voilà, c'est ça.
Pour reparler de Dart Wars, c'est un jeu qui avait été primé à la ludothèque de Boulogne-Billancourt lors du concours de jeunes créateurs. Qu'est-ce qui s'est passé après ?
Ce qui s'est passé après, donc j'ai eu des contacts avec différents éditeurs. Donc il y en avait pas mal qui étaient intéressés par la publication de ce jeu, mais au fur et à mesure, c'est un jeu qui est quand même assez difficile à éditer. De par son matériel et aussi après pour trouver pour avoir un public cible, c'est tellement différent que c'est que ça s'est pas fait. Et du coup, bah, je me suis lancé dans l'aventure. J'ai créé la boîte d'édition Squall Games et je l'ai édité moi-même.
Ça, c'est un fameux challenge quand même de se dire j'y vais. Quelles sont les choses qui ont été mises en place et qui ont dit bon, bah, je me lance. Qu'est-ce qu'il a fallu mettre en place?
Mais, donc déjà, le concours, ça m'a bien aidé parce que ça a fait connaître pas mal le jeu. Et après, je me suis dit, bon, bah, si je trouve un distributeur, je me lance. Et j'ai rencontré Asmodée qui ont été d'accord pour le distribuer de suite. Donc je me suis dit, bon, ben bah, voilà, c'est parti.
On a déjà le distributeur, il n'y a plus qu'à éditer.
Voilà, ouais, il n'y a plus qu'à.
Ok, et donc la santé de Squall Games a permis de se lancer dans une nouvelle création?
Oui, bah, Dark Wars a pas trop mal marché. Mais alors le problème chez Squall Games, c'est qu'on est tout petit, hein, je suis seul et du coup, bah, suffit que j'ai un jeu qui marche pas et c'est fini.
Et donc, comme je disais, c'est un jeu étonnant, il y a des choix au niveau matériaux et au niveau visuel qui sont hors du commun par rapport à ce qu'on voit en tout cas aujourd'hui. Donc ça reste un challenge, mais il y a du courage là-dedans quand même.
Ah ben oui, et surtout que celui-là, il est plus cher, hein. Donc là j'ai vraiment investi tout mon argent dedans, donc
venez l'acheter,
s'il vous plaît. Donc j'espère que le public va être là.
Alors l'historique de la création de ce jeu-là, justement, qu'est-ce qui a fait que c'est devenu un jeu de pichenette avec des mercenaires, des aventuriers?
Et ça, c'est le premier jeu que j'ai inventé, en fait. Donc avant, c'était pas un archipel, c'était plutôt un jeu abstrait, bah, de type un peu Carom. Et puis j'ai trouvé intéressant de le faire évoluer, donc même les règles ont évolué après grâce au thème d'exploration.
Au niveau de la production, là ce que vous présentez ici, c'est un prototype?
Ça c'est un prototype mais quasiment final, c'est-à-dire que le bois ça va être exactement pareil, il n'y a que le dessin qui va un peu changer, mais bon c'est des détails, vous remarquerez même pas, je suis sûr.
Ok, au niveau de la production, c'est une production qui est différente d'un jeu de société classique, on va dire, hein. C'est pas des cartes et du carton, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il y a quand même du bois, il y aura des aimants ou pas?
Non, il n'y a pas d'aimants, donc les petites barrières sont fixées avec des pastilles adhésives, donc c'est une genre de pâte qui dure à vie.
Vie. Et donc la création d'un jeu comme ça, c'est aussi un challenge de se dire qui va pouvoir le produire.
Ah oui, là, ça, j'ai mis un an avant de trouver déjà les bons fabricants et puis de pouvoir faire la conception pour que ça fasse une mallette, qu'il n'y ait pas un vide au milieu qui pourrait bloquer les pions. Donc ça a été un gros challenge et ça a été très long pour réunir tous les bons composants et les bons fabricants.
Alors, pour revenir au jeu, je vois qu'il y a beaucoup de variantes, en fait. L'explication qu'on vient d'avoir, ben, c'est le jeu de base, on va dire, mais il y a quand même moyen de jouer à d'autres manières.
Donc, il y a le jeu de base, et avec ce jeu de base, il y a déjà trois variantes qui reprennent un peu le même jeu, mais avec des buts de jeu différents. Et après, on a voulu, comme c'est une mallette, et ça nous rappelle quand on était petit, la mallette avec tous les jeux, on s'est dit qu'on va essayer de faire plein de jeux avec. Donc, on a des jeux de billard, où il faut faire des doublés, c'est-à-dire que sur les pions, il y a un numéro d'inscrit, mais il y a des pions rouges et des pions verts, donc le but, c'est de pouvoir toucher, par exemple, le numéro 5 vert et enchaîner avec le numéro 5 rouge, donc tout est dans le placement, tout ça. On a un jeu de hockey, il y a un jeu de course de kayak, où on fait des portes avec les barrières, qu'on numérote pour donner un ordre, et donc c'est une course. Il y a un jeu de pétanque, il y a 10 jeux qui vont avec le jeu de base.
C'est le jeu à garder dans le coffre quand on va chez des amis, alors.
Voilà, exactement.
Exactement. Voilà. Un petit conseil tactique sur le jeu de base. Il y a des choses à faire, à ne pas faire.
Alors bon, il y a une grosse partie tactique quand on place les barrières en début de jeu. Donc c'est difficile quand on ne connaît pas le jeu, mais dans la règle, j'ai mis une position qui marche bien. Donc comme ça, les gens peuvent utiliser cette position et après voir ce qui leur convient le mieux. Et sinon, il faut commencer par sortir ces mercenaires. Hein. Parce que les mercenaires, comme ils peuvent capturer les pions adverses, ils vont pouvoir couvrir une zone. Donc il faut commencer par sortir les mercenaires, après lancer ces explorateurs et faire attention qu'ils soient bien protégés par les mercenaires et par les barrières aussi.
Ok, c'est noté. Maintenant, la récupération de la clé, elle se passe dans un des coins. Il faut récupérer deux clés. Quand un explorateur arrive dans un coin et qu'on a récupéré la clé dans sa main en tant que joueur, que l'explorateur il reste là et il continue à voyager.
Pas du tout. Non, l'explorateur, donc il rentre dans le sanctuaire, il récupère la clé et après on le prend, on le remet directement dans son camp de base, donc sur une des positions libres. Alors par contre, si le joueur adverse vous avait capturé des pions auparavant, donc vous pouvez échanger ce pion qui rentre dans le sanctuaire par un des pions capturés précédemment. Il vient libérer un autre pion. Donc c'est pratique si vous voulez échanger un pion explorateur contre un mercenaire ou le contraire, un mercenaire par un explorateur.
Monsieur Pascal Raymond, merci beaucoup.
Ben, je vous remercie.
Et bonne chance pour ce salon, et en tout cas bravo parce que le jeu a vraiment l'air bien et change de ce qu'on voit d'habitude, donc c'est tricky.
Merci bien.
Au revoir.
Radio Gruga, c'est bien.